Cube Radio.
Tu sais, on passe notre temps à dire publiquement on est pourri en cuisine, puis tout ça, on n'est pas bon, puis tout ça, puis tout ça. Mais ce soir, les enfants, ta fille est là, puis notre fils est là, et je leur ai préparé un souper. Vegan, en plus. Un souper végétalien.
Parce que ma fille est vegan.
Oui.
Puis on sait jamais quoi y offrir à manger, sauf un bol d'eau, parce que c'est à peu près tout ce qu'elle mange.
Et on est tellement pourris, on sait même pas comment ça fonctionne, un grille-pain.
C'est correct, ça?
Non, mais là, au maximum. Non, faut que ça chauffe. Faut que ça chauffe.
C'est comme ça
qu'il est... Okay, à droite, Richard. Okay. Je sais que t'as une propension à être à droite, fait que fais pas semblant d'être à gauche. Mon bel amour, devine qui vient souper ce soir.
Et c'est là que je fais semblant de pas savoir, je le sais pas.
Non, en fait, tu le sais. Alors, on reçoit donc l'ancien chef du PQ, ancien journaliste, ancien rédacteur de discours, ancien conseiller politique, un ex, finalement, Jean-François Lisée, et une présente, c'est-à-dire Régine Laurent, qui est jouteuse à la joute.
Okay. Là, il y a un défi. Okay. Il faut pas que ça soit trop politique. Il faut pas faire un show politique. Il faut leur dire, c'est pas la joute en mangeant.
C'est pas la joute pendant la soupe.
La joute, la bouche pleine.
Non, c'est
sinon,
ça.
Sinon, non. Mais ce qui va être le fun, c'est que Jean-François, on le connaît, et il est très baveux. Il est très baveux, puis il va nous en soigner dans les pattes. Hein.
C'est exactement ça que je pensais.
Au cours de la soirée, il va m'en envoyer 2-3 vacheries, là, mais avec le sourire tout le temps, puis avec beaucoup d'être.
Juste à toi, à moi aussi, parce que des fois, que je pense qu'il y a peut-être une ou deux crottes sur le cœur, oui. Te concernant et me concernant. Plus toi, parce que t'as écrit plus souvent, évidemment, en politique que moi.
J'ai vraiment appuyé le PQ lors de la dernière campagne. Et pourtant, je suis souverainiste. Je sors du placard. Là. Je pense que
ben, ça, c'est dans son livre, il te sort du placard parce qu'il te nomme comme indépendantiste en disant que finalement, la quadrature du cercle du PQ, ce serait d'arriver à rallier toutes sortes d'indépendantistes de toutes sortes de couleurs. Et il te nomme là-dedans.
Ben, il était trop à gauche pour moi, mais en tout cas, on en parlera. Mais on veut parler plein d'autres affaires aussi.
Je suis très contente de recevoir Régine Laurent parce qu'on ne se le cachera pas. Des femmes d'opinion au Québec, avec du front tout le tour de la tête, qui ont peur de personne et qui sont capables de donner des coups et qui sont capables d'en recevoir. Tu sais, j'ai 10 doigts dans mes deux mains, là.
Il y a bien des gars qui ont de la misère, des fois, avec des femmes d'opinion, puis ils trouvent trop abrasives, etc.
Je trouve que c'est
une femme avec une opinion, mais elle fait vraiment comme un... C'est comment dire?
Un gant de velours.
Exactement.
Hein? Ouh, un gant de velours.
C'est ça.
Comment ça fait que t'es à court de mots, toi, Richard Martineau, à court de mots? Ça arrive jamais, ça?
Ça me stresse un peu, cette rencontre-là.
Mais pendant que je prépare le hamburger végétalien, serre-moi donc un verre de vin, parce que, tu sais, c'est comme, je sais pas, t'es sobre, puis je te reconnais pas. C'est parfait. OK, c'est bon, parce qu'on veut pas que ce soit brûlé.
Shit! OK, j'ai sorti les pains du toaster exactement au bon moment. Je suis extraordinaire. En cuisine. Et quand les gens vont écouter ça, on va être déjà déménagé. Mais
oui.
Nous, on déménage pendant 3-4 jours, puis on est super stressé à cause du déménagement. Et en plus, on reçoit quand même de la grosse gomme à soir. Fait que. T'sais.
Mais moi, je suis très contente que Régine Laurent soit là parce que si à un moment donné, mettons, Jean-François Lisée fait une crise d'apoplexie parce qu'on lui prédit la mort du PQ ou, tu sais, je sais pas, là, quelque chose, ben, on a une infirmière quand même avec nous, tu sais, je veux dire, si jamais il arrive quelque chose.
Moi, j'ai fait la petite santé ces temps-ci, je peux demander, il faut que je passe mon test de prostate. Benoît Dutrisac, qui s'est fait faire le truc colorectal.
Oui.
Et là, Benoît, il arrête pas, là, à tous les trois jours, il dit « Faut que tu y ailles, Jean. Okay. » Fait que là, il faut que j'y aille. Oh, lève-là!
Oh, bon, ouais. La réponse au prochain épisode, les invités viennent d'arriver.
Bonsoir!
Bonsoir! Ça va bien?
Merci.
On s'embrasse?
Merci.
Avec plaisir, ben oui, ça me fait plaisir.
Vous n'avez pas trop de difficultés à trouver?
Non. Mais vous savez, j'ai une nouvelle application que mes jeunes garçons m'ont appris.
Oui.
Et mon meilleur ami. Merci.
Oui. C'est-tu assez extraordinaire?
Moi, j'adore les jeunes pour ça. Ils me gardent moins analphabète.
Exactement.
C'est drôle, ça t'avertit, nid de poule à 400 mètres. Là, tu dis que t'es à Montréal. Oui, puis là, je me dis, je fais quoi? Une fois que tu me l'as dit, je fais quoi, là? Bon, au moins, tu peux ralentir.
Mais, au moins. Régine, oui. Cette année, les nids de poules sont particulièrement
creux.
C'est
débile.
Non, c'est quelque chose.
Ils sont énormes.
Mais moi, comme je prends toujours le même chemin quand je pars de chez nous, par exemple, pour aller à la TVA, je les connais, les nids de poules. C'est rendu mes amis, je les connais. Je le sais, ils vont en avoir un là, puis en avoir un autre là. Puis,
faudrait leur donner un petit nom. Hey, salut, j'ai
le père. Non, mais là, c'est assez, là, parce que le petit nom serait pas très politically correct.
Non.
Ah oui,
non. Non, c'est ça. Non.
D'ailleurs, je me demande, dans un état laïque, est-ce qu'on va avoir encore le droit de sacrer puis de dire les Christines des poules?
Dans mon cas, c'est trop tard.
C'est trop tard?
Je vais continuer de sacrer.
Vous sacrez beaucoup dans la vie de tous les jours?
Ah, pas toujours oui. Très chic. Pas toujours
puis,
très chic.
Puis devant vos enfants?
Oui, puis là, ils me font des gros yeux.
Ah, parce que, là, c'est
parce que ils me mettent devant mes propres contradictions.
Un satané nid de poule, c'est pas la même chose que dire un tabarnak de nid de poule.
C'est pas pareil. Le bien que ça fait ici, là, il est pas pareil.
Ça libère.
Mais Régine, rappelez-moi,
oui.
Vous êtes née ici?
Non, j'ai arrivé ici, j'allais avoir 12 ans. On est arrivé en juin, j'allais avoir 12 ans en octobre.
Donc, vous êtes vraiment devenue québécoise quand vous avez commencé à sacrer? C'est vraiment là.
Non, avant ça, quand j'ai commencé à l'école secondaire, parce que moi je suis arrivée, puis ils ont dit à mes parents, comme c'est pas le même système, donc j'ai refait la sixième année, mais moi j'avais déjà mon certificat d'études primaires en Haïti, sixième année. Et quand je suis arrivée au secondaire, puis que là le fun a pogné, là oui. Et en plus, moi j'étais la seule des quatre, je suis allée chez les guides, et là j'ai découvert les régions du Québec.
Ah.
Et chez les guides, j'ai appris à sacrer.
Chez les guides,
c'est trop drôle.
Hey, j'étais scout, moi. J'étais scout.
Moi, j'étais la seule chez nous qui partait les camps d'hiver. J'ai adoré ça. Et ensuite, on avait un gros camp l'été. Là. On allait vraiment dans le bois avec les vieilles grosses tentes d'armée. Avec les feux de camp. Je pense que j'ai commencé à aimer le Québec et les régions avec les guides.
Quand on observe une société et qu'on observe la façon dont cette société-là prend soin de ses membres les plus vulnérables, donc dans un hôpital, peu importe notre condition sociale, c'est là qu'on est le plus vulnérable. Donc, la façon dont une société traite ses concitoyens les plus vulnérables, ça en dit long sur
absolument,
cette société-là.
Absolument, oui. Moi, quand j'ai étudié, on m'a dit, moi, j'allais m'occuper des malades.
Oui.
C'est malade. Simple, là. La personne est malade.
Ça le dit, justement, ça montre son état de vulnérable.
Tout
malade.
À fait. Moi, j'allais m'occuper des malades. Non. Après ça, on m'a dit, non, Régine, t'es trop rétrograde. J'étais jeune pourtant. On va s'occuper d'un client.
Ben, voyons, un client.
Un client.
Comme
un
chez client. Walmart.
Exactement. Après ça, on a eu les clients, les patients. Les patients, c'est celle-là qui m'a le plus enragée.
Ben oui, parce que tu fais juste attendre.
Tu fais juste attendre. Fait que tu peux être 28 heures à l'urgence, comme tu attends en ligne, mettons, le lendemain de Noël, là,
ouais.
Dans les magasins. Fait que c'est bien correct.
Puis après...
Les mots veulent dire quelque
chose. Ben tout à fait. Fait que c'est Jean-François qui arrive. Justement, nous, on a été patients de l'attendre. Il arrive en retard.
Est-ce que ça va bien, Jean-François?
Moi, ça va très bien.
OK.
Je t'ai apporté des fleurs.
Oh, ben...
Je t'ai apporté du Porto.
Oh! Merci! C'est donc bien fin.
Comment ça va?
Merci
de me recevoir.
Ben, écoute, c'est super gentil.
Ben, c'est la moindre des choses. Faut savoir respecter nos autres.
C'est pas grave.
On va dire qu'on s'était coordonnés.
Oh, merci. Merci. Je reconnais le gentil homme en toi.
Lui, il est habitué, il y a eu une co-chef. Alors, oui, il pourrait dire, vous êtes co-responsable des fleurs et du Porto.
Ça va? Vous avez dit, prenez soin de vous. Je vous l'ai dit 100 fois plutôt qu'une. Vous ne m'avez pas écouté.
Pourquoi j'ai
pris soin de moi? Ben non, vous avez écrit un livre, tata, c'est même pas le temps de vous reposer. Bang, c'était reparti.
C'est ma façon de me reposer.
C'est sa thérapie, l'écriture.
C'est exactement. Oui. C'est thérapeutique. Maintenant, je suis beaucoup plus zen après avoir écrit le livre.
Vrai?
Sachant que tu l'as lu puis que tu l'as aimé.
Oui, oui c'est vrai.
Mais moi, j'ai beaucoup aimé la dernière phrase.
C'est vrai.
Oui. Je veux bien.
Ça va bien.
Oui.
Oui.
Ouais. C'est la première et la dernière.
Alors, ben, allez dans la cuisine, moi je vais chercher un vase. Okay, parce qu'on déménage dans 3 jours, fait que je sais même plus où sont mes vases.
Vous arrivez ou vous partez?
On s'en va.
Ça va.
Ah.
On s'en va, j'arrive. Ben Jean-François, quand on t'a invité, tu nous as dit « Moi, je veux être avec Régine Laurent ». Alors, oui, c'est l'occasion de lui dire tout ton amour.
C'est ça, pourquoi donc? Pourquoi? Oui, ça m'a stressé depuis ce temps-là.
Absolument. Ah oui, ça m'a stressé.
Oh mon Dieu, j'avais le choix entre toutes les autres personnalités québécoises. J'ai pensé qu'on se limitait au Québec. Bon, Barack Obama...
il était pas libre ce soir-là.
Puis j'ai dit, ben, moi, Régine Laurent, parce que je l'aime bien depuis longtemps, elle a fait une contribution considérable à nos débats sur la santé, à la condition de vie des infirmières. Puis là, je peux vous donner un scoop. J'ai vraiment essayé de la convaincre de se présenter pour nous.
On est vraiment surpris.
Ouais, ouais.
Mais tu sais que tous les partis l'ont fait.
Oui, mais
pas tout seul.
Si j'avais décidé d'aller en politique, puis je vous l'avais dit, là, ce serait avec le PQ. Ouais.
Mais d'ailleurs, la question...
Pourquoi vous ne l'avez pas fait?
Parce que j'étais épuisée. Je venais de quitter pour ma retraite et j'étais vraiment, vraiment épuisée, à terre. J'avais la conviction que si je ne prenais pas du temps pour moi, j'allais tomber malade.
Moi, je suis convaincue que sur l'axe qui relie la politique et les médias, vous allez vous croiser. C'est-à-dire que, Régine, vous allez peut-être faire le saut en politique et toi, Jean-François, on va te voir dans une émission comme la joute. En train de devenir commentateur. Est-ce que ça se trouve que vous allez vous croiser sur l'axe?
Ben, moi, j'espère.
En tout cas, moi, je ne penserais pas là.
J'espère que Régine en politique, pour moi, ce serait une très bonne chose.
Ouais.
Moi, à la joute, moins bien.
Pourquoi?
Not so much.
Pourquoi?
Ben, Bernard Landry, en toute bonne foi, et Dieu ait son âme, allait donner des entrevues à LCN ou ailleurs, et parfois contredisait. Sur un point mineur, peut-être, ce que faisait l'aile parlementaire du Parti québécois.
Okay.
Ben, à Québec, on entendait parler pendant 3 jours, parce que le Parti libéral nous le mettait dans la face, puis, tu sais, ça nuit. Alors moi, je ne veux pas nuire, je veux aider.
Et c'est tout en ton honneur, parce que tu dis que ma carrière personnelle pèse moins dans la balance que la cause que je veux
faire. Ma loyauté à ma cause, à mon équipe, à mon parti.
On va trinquer.
Oui. Santé, au plaisir. Merci
belle
pour l'invitation.
Rencontre.
Merci. Très heureuse d'être avec Jean-François.
Vous connaissez bien?
Oui, et on se connaît antérieurement. Parce que, je ne sais pas s'il se souvient, mais il y a un congrès qu'on organisait. Il faisait partie des conférenciers de notre congrès. Ça avait été un très bon succès parce que, qu'est-ce que vous voulez, c'est un bon orateur. On peut pas y enlever, tu sais.
Il a le sens de la formule et du punch. C'est pour ça qu'il serait bon commentateur.
Tout à fait, oui.
On est avec un stratège ici.
Oui.
Vous êtes aussi très...
J'en ai tellement voulu.
Vous êtes
Je peux-tu vous le dire? Puis j'y avais dit à ce moment-là au congrès, quand on discutait, là, je l'aurais punché.
Ah!
Quand j'y pense encore, je l'aurais punché.
Bon, ben, bonsoir. Alors, on se revoit bientôt.
Non, il sait que je l'aime. Mais cette affaire-là, je l'aurais punché. Je sais pas si on se souvient, on discutait de la dernière grève qu'on avait fait et c'était Lucien Bouchard qui était premier ministre à l'époque. Et j'avais dit, mais là, c'est épouvantable ce qu'il a fait, puis la loi, tout ça. Puis il dit, moi, j'aurais fait ça plus cool. J'ai dit, comment ça? Il dit, moi, j'aurais interdit à qui que ce soit de faire affaire avec vous. Je l'aurais punché. Je me vois encore. Je me vois encore au bord de la table. J'ai dit, je l'aurais punché, là.
Pourquoi j'aurais fait ça? Pour vous empêcher de faire faillite. Il faut se remettre dans le contexte, OK? Donc, on est dans la négociation du Front commun sous Lucien Bouchard. Les chouchous de Lucien Bouchard, c'est les infirmières.
Ouais.
Puis c'est Janet Keen qui est la présidente.
Oui, c'était Jenny. J'étais à l'exécutif, c'était Jenny qui était présidente.
Et puis là, ils avaient décidé qu'ils allaient obtenir, en termes de salaire, davantage que le reste du Front commun.
Voilà.
C'est ça qu'on leur a dit. Non, ça ne marchera pas. Demandez la même somme en bénéfices marginaux, on va vous donner ça. Mais vous ne pouvez pas créer un précédent,
une
ça ne marche pas.
Ouais.
Et là, les troupes étaient tellement crinquées
c'était incroyable.
Qu'ils pensaient qu'ils allaient traverser Lucien Bouchard là-dessus.
Ouais.
C'est qu'on n'arrêtait pas de dire « demander autre chose que ça ». Et là, comme ça ne marchait pas, entendre, c'est ça. Ben là, il y a une loi spéciale. Une loi spéciale qui mettait des amendes très lourdes sur le syndicat.
Oh, ouais.
Et moi, j'ai dit à M. Bouchard, j'ai dit, ben non, ils vont faire faillite. Ça a été très dur.
Ça a été très, très dur. Ce sont les syndicats d'infirmières à travers le Canada qui nous ont prêté de l'argent, sinon on faisait faillite.
Ouais. C'est le problème qu'on est dans une cause, puis on est dedans, on voit pas.
Le grand tableau.
On est aveuglé un peu par
faut jamais laisser. Moi, j'ai appris de cette grève. C'est-à-dire, faut jamais laisser perdurer une situation comme ça, parce que plus ça dure longtemps, plus les membres étaient craqués, puis c'est le renversement du gouvernement.
Non, allons pas sur... Faisons en sorte que la grève devienne très difficile à continuer. Puis, puisque la grève est illégale, ben, il n'y a pas un imprimeur qui peut faire affaire avec la FIC. Personne ne peut faire affaire avec la FIC pour les transporter, etc. Bon, mais on met pas la FIC en faillite.
Non.
Je trouvais que c'était à la fois plus
soft, mais
aussi de dire mais c'est illégal d'aider une grève illégale.
Bon, ben là, c'est l'occasion de la réconciliation ce soir. On n'est pas très bon en cuisine, Richard et moi, donc on fait venir de la nourriture. Des fois, c'est des sushis, des fois, c'est des pâtes. Fait que là, on a lancé un vendasso dans les airs. Donc ce soir, ce sont des pâtes. Alors, j'espère que vous aimez les pastas.
Absolument.
Et le vin est un choix de...
Patrick Désy de Méchant Raisin. Donc, le blanc, on boit du Bramito della Sala, un Antinori. Et dans le rouge, on boit un Brancaia 2000 et Quindici 2015 de Toscane. Il y a des apéros, des fois, ça s'étire. Ça dure le temps d'un souper. Avant que tu arrives, Jean-François, on parlait avec Régine et Régine nous disait que un petit peu que quand elle a senti qu'elle était devenue québécoise, c'est quand elle a commencé à sacrer.
Ah oui.
Et là, moi, je me rappelle, j'ai beaucoup d'admiration pour ton érudition, ton éloquence, les qualités d'orateur, ton amour de la langue française. Ouais. Mais le jour où tu as fait une déclaration comme politicien en disant « On a un esti de beau programme »,
il parlait comme
tu m'as déçu.
Il parlait comme Catherine. Il parlait comme Catherine Dorion.
Ah, je m'en souviens pas de celle-là. C'était quelle année
de ça? Non, il y a un an ou deux.
C'était le jour du lancement de ma campagne au leadership.
Et la phrase exacte, c'était.
On sera pas un bon gouvernement. On va être un hostie de bon gouvernement.
Et cette journée-là, tu m'as déçu, Jean-François, puis je te dis ça, je veux pas te mettre sur la sellette.
Moi, j'aimais ça.
Moi, j'aimais pas ça parce que je trouvais que c'était comme si Bernard Landry se prenait pour Michel Chartrand. Tu comprends? Pour parler comme tout le monde, t'as pas besoin de dire hostie. Fait que pourquoi t'as dit hostie cette journée-là?
D'abord, c'est vrai que je sacre très peu, même en privé.
C'est vrai?
Quand ça arrive, il y a hostie puis il y a tabarnak qui vont sortir, mais comme trois fois par année. Il faut vraiment...
Les années bisextiles.
Ou les 29 février. Mais et c'est sûr que moi, je trouve que quelqu'un qui sacque pas souvent, quand il sacque, c'est sérieux. Puis là, le monde s'en rend compte. Puis je pense que l'utilisation du sacre dans l'univers lexical québécois, ça doit exister. Il ne faut pas en abuser, mais ça fait partie de nos outils de communication. Alors, quel était mon problème? C'est toujours, on essaie de résoudre des problèmes. Mon problème, c'était que, comme j'avais l'audace de dire « je vais devenir chef du Parti québécois en proposant pas de référendum dans un premier mandat, on va le réussir en deux mandats », les gens disaient « c'est impossible, jamais tu seras chef du Parti québécois si tu n'as pas de référendum dans le premier mandat ». Ben, j'ai dit « on va voir, on verra ». Ok. Puis là, ils vont t'accuser de ramener le bon gouvernement.
Ouais.
Et le bon gouvernement, c'est bizarre, mais dans notre société, l'idée d'avoir juste un bon gouvernement, ça suffit pas.
Non.
Qu'il fallait que je dise que ce serait plus qu'un bon gouvernement. Puis j'avoue que j'ai jonglé avec ça pendant les dernières 48 heures. J'ai dit, comment est-ce que je vais dire que ce ne sera pas un bon gouvernement ordinaire?
Plus.
Ouais.
Et je n'ai pas trouvé de bonne façon de le dire. Et je me suis retrouvé dans la mêlée de presse. Et ça m'est venu. Je m'étais dit, je pourrais dire un hostie de bon gouvernement, mais je ne dirais pas ça, parce que Sophie ne sera pas contente. Bon, mais justement, parce que ce n'est pas mon langage, mais Au moment de le dire, le mot m'est venu, c'est le seul qui faisait la job, et je l'ai dit.
Et on s'en est souvent parlé, Sophie et moi, ben souvent à quelques reprises, et la théorie de Sophie, là, je parle pour elle.
Mmh. Je fais mon match. Elle est là, on va voir.
C'est correct.
Je parle pour elle, mais elle dit, Jean-François avait cette étiquette de collé d'intellectuel et tout ça. Il voulait rejoindre le bon peuple. Donc, il a sorti un gros sac en disant « Je suis capable de parler comme vous. »
Bon, écoute.
Mais moi, c'est quoi notre problème? C'est quoi notre problème avec les intellectuels? Ben, moi, quelqu'un comme Jean-François Lisée, je suis en admiration.
Ben oui.
C'est quelque chose. C'est quoi notre problème avec les intellectuels? On veut juste avoir des moyens puis des crétins?
Mathieu Bocoté, les gens qui disent ils parlent trop, c'est trop compliqué ce qu'ils disent.
Moi, je veux quelqu'un qui va me pousser, me tirer vers le haut, qui va m'obliger à aller plus loin.
Mais vous avez
pas me posé dans ma
la très bonne question.
Voyons.
La très bonne question, Régine, parce que dans plein d'autres pays, quand les gens occupent des postes importants, quand les gens accèdent à des postes importants, on les admire justement pour les qualités qui les ont amenés là.
Absolument.
C'est-à-dire, entre autres, une qualité de réflexion.
Oui.
Ce sont des gens qui sont capables de s'exprimer.
Puis
le bon choix des mots, parce qu'on s'en parlait avant que tu arrives, Jean-François, les mots sont importants. Mais au Québec, on a l'impression que si tu utilises des mots de plus que 3 syllabes, tu es un snob,
ben,
tu chies sur le Québécois moyen, t'es un péteux de brou.
Mais
ça
vient d'où?
Mais je trouve ça... Non, ben, on est né pour un petit pain.
Est-ce que ça faisait partie de la stratégie? Ben, je vais parler au bon peuple.
Oui, ben, sur le fond des choses, il y a une tension entre l'électorat et l'élite. Mais l'électorat a choisi régulièrement des gens dont on pourrait dire qu'ils sont plus intellectuels. Alors, de Jean Lesage, Robert Bourassa, il a été élu parce qu'il était économiste. C'était la seule raison. Il était assez peu connu, mais c'était un économiste, puis il voulait un économiste.
Lucien Bouchard citait Sénèque.
Lucien Bouchard citait Sénèque. Philippe Couillard était quelqu'un d'intelligent, un neurochirurgien qui s'exprimait très bien. Donc, ça n'a pas empêché un certain nombre de gens qui étaient de ce profil-là d'être élus, malgré cette tension.
Okay?
Bon. Cela dit, oui, je savais qu'une partie de mon problème de relation avec l'électorat, c'était que j'avais été défini comme intellectuel, snob, prétentieux, etc., en disant le mot « hostie », qui était, je veux dire, je l'ai dit là parce que c'était le seul disponible, puis il faisait la job, mais ça avait l'effet collatéral positif, effectivement, de dire au premier jour de sa campagne, il sacre. Et là, ça ne s'invente pas, là. Ensuite, ma mère me gronde par écrit, elle m'envoie un courriel pour dire franchement, au premier jour de ta campagne, c'était pas une bonne idée de sacrer. Là, je le dis à un journaliste, là, il pense que c'est organisé.
Ben,
j'ai dit non,
ben,
regarde, j'ai le courriel. Ben, et là, arrive cette histoire-là, bon, Jean-François dit, a une mère, elle habite Thetford Mines, ça c'est déjà bien, parce que les gens, il y a du monde qui pense que j'arrive de Paris. Il se fait engueuler par sa mère, il s'est excusé à sa mère.
Ben oui.
Tu peux pas inventer une séquence la première semaine de ta course au leadership qui te rend plus humain que ça.
Mais t'aurais pu dire un maudit bon gouvernement. T'as dit un hostie bon gouvernement.
C'est plus fort. Moi, j'aime mieux hostie que maudit, mais ça, c'est moi.
Mais
c'était signifiant. C'était le bon mot pour expliquer ce que je voulais dire à ce moment-là au Québec.
Quand vous voyez le prix à payer.
Ouais.
De faire la politique. C'est un prix à payer.
Ouais.
Et moi, j'ai énormément de respect pour les gens parce que c'est un prix à payer familial, c'est un prix à payer amoureux, c'est un prix bon. C'est très dur.
Ouais.
Mettons, vous avez été approché par des partis politiques. Ouais. Est-ce que vous êtes prête à payer ce prix-là?
Moi, j'ai une cousine qui est ma cousine Marie-Hélène, qui est comme notre matriarche de la famille. Puis elle m'a dit, la journée que tu me dirais que tu vas en politique, je te fais voir un docteur. Parce que un psychiatre. Parce que elle m'a dit, je connais ton tempérament. Si un jour on touche à ta famille, à ton intégrité, à tes enfants, t'es capable de mettre le Québec à feu et à sang.
Oui.
N'y va pas.
Mais ça, c'est intéressant parce que moi, j'ai toujours trouvé que, par exemple, je me rappelle en 2012, pendant la crise étudiante, il y avait des étudiants qui avaient manifesté, corrigez-moi si je me trompe, devant chez Jean Charest, mais sa résidence personnelle.
Ça, c'est
Raymond Bachand, qui était ministre des Finances, mariait son fils. Son fils se mariait pendant le conflit, et les étudiants en avaient beaucoup contre Raymond Bachand, parce qu'évidemment, tout partait de lui, puis c'était les frais de scolarité, etc. Et il avait ouï dire que les étudiants avait l'intention de faire irruption au mariage de sa fille. Et savez-vous ce qu'il a fait? Il est allé voir Amir Kadir. Il est allé voir Amir Kadir, puis il a dit, ben, je sais que les étudiants ont plus l'oreille de QS que des méchants libéraux. Et Amir Kadir lui a dit, t'en fais pas, Raymond, on n'est pas du même bord politique, mais je m'en occupe. Et Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé.
C'était noble de la part d'Amir Kadir.
C'était très noble. Mais moi, Amir Kadir, il y a bien d'affaires que j'aime pas, là. Tu te rends compte que, moi, là, Raymond Bachand, il me racontait ça, puis je me disais, hey, tabarnouche, tu peux bien faire de la politique puis défendre tes opinions, mais quand il y a des tapons qui disent on va aller interrompre le mariage de ton fils.
Attends une minute, Lynn Beauchamp, il y avait des trucs, des bombes, quasiment, là. Il y avait des trucs sur son...
Ils avaient l'intention d'aller poser des dispositifs explosifs sur son balcon.
Sur son balcon, sa résidence
privée. Ministre de l'Éducation.
Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que le prix que tu as payé personnellement pour ton implication dans une cause, quand tu revois ça, est-ce que ça en valait la peine?
Jean-François?
Non, la réponse est oui, absolument oui, à 100% sans la moindre, hésitation.
Oui.
Et moi, là, j'ai eu même un épisode où quelqu'un s'en est pris à ma famille et à mon éthique, et je me suis battu.
C'est Christine Saint-Pierre.
Et puis cette personne-là est obligée de se rétracter.
C'est Christine Saint-Pierre.
Oui, de s'excuser. Alors, tu sais, donc j'ai même vécu cet épisode-là, qui est rare en politique québécoise, parce que les partis respectent les familles, respectent...
Mais au-delà de ça, Jean-François, t'es moins présent, t'es pas là, ça prend énormément de ton temps, tu vois moins tes enfants,
tu vois pas tes enfants,
t'as bien aimé, etc. Ce prix-là, là, au-delà de des chicanes de partis...
Oui, j'ai... l'intensité que j'ai vécue en termes de qualité de travail, aller au bout de soi, se dépasser, qui est une des grandes joies de l'existence. Est-ce que tu t'es dépassé dans ton travail? Est-ce que tu as eu un impact positif sur la vie des gens? Bon, je peux voir dans mon comté le nombre de personnes que chaque semaine, on a aidé à régler des problèmes qui, pour nous, sont mineurs.
Mais est-ce que tu as eu un prix à payer dans ta vie privée de ça?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Non, mais la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, là. Là-dessus, je le comprends très bien. Tu sais, moi, à tout un autre niveau, mais les années où j'ai été président de la FIC, c'était d'une intensité, mais je ne regrette et je n'ai jamais, jamais regretté une seconde. Jamais, jamais.
Et pourtant, pendant ce temps-là, vous étiez moins, évidemment, physiquement moins présent. C'était des heures de fou.
Mais, oui, tout à fait. Mais ça te tient vivante, parce que tu sais pourquoi tu te bats. Et à chaque fois que j'allais, par exemple, dans des régions et tout ça, j'avais le visage d'une personne qui était venue me parler, qui m'a dit, moi, Régine, là, c'est ça mon problème.
Mais Régine...
ça me restait dans la tête.
Je vous pose la question, mais pendant que vous aviez le visage d'une personne que vous ne connaissiez pas, vous n'aviez pas le visage des gens qui étaient le plus près de vous.
Oui. Alors, mes garçons ont dit qu'ils ont fait du syndicat pas par choix, mais en même temps, ils ont dit, ça nous a fait grandir. On a compris l'engagement social de notre mère et aujourd'hui, ils sont dans un chemin que peut-être j'aurais préféré moins difficile parce que je leur dis, ben c'est difficile quand tu fais de l'engagement social aussi, c'est difficile quand tu prends ce chemin-là. Mon plus jeune, je suis rentrée à la maison et j'ai dit, écoute, qu'est-ce que t'en penses? Je pourrais me présenter comme président de la FIC et tout ça, qu'est-ce que t'en penses? Et sa réflexion a été la suivante, une phrase, claire. Il dit, si tu n'y vas pas, tu vas le regretter. En plus, tu nous as toujours dit qu'il ne fallait jamais reculer. Fait que l'élastique m'est revenu en plein front.
T'es bien élevé, cet enfant-là.
Ouais. Et il m'a dit, tu ne connais rien dans les nouvelles technologies, moi, je vais t'aider pour ta campagne.
Oh, c'est trop mignon!
Il y a un moment, j'étais ministre de la Métropole et des Relations internationales. On avait la garde partagée. Et je réussissais, parce qu'on l'a calculé pour le médiateur, à les avoir 37 % du temps. Alors,
36,
ça voulait dire...
Oh, pas 36, oui. Pas 37.
Non, non, on a calculé proche, là, parce qu'il y avait des conséquences financières. Puis je m'organisais, puis je disais, écoutez, moi, le dimanche, je suis avec mes enfants, je les amenais à des événements. Des fois, je trouvais ça le fun, parce que quand t'es ministre, t'es invité à toutes sortes de places où tu peux pas normalement aller. Ben c'est ça. Moi, je partais le mardi matin à Québec. Donc, le lundi soir, j'étais avec mes enfants. Je revenais le vendredi. On faisait un week-end sur deux parce que j'avais la volonté absolue de maximiser mon temps avec mes enfants. Mon équipe le savait. Puis personne ne pouvait dire que je travaillais pas assez pour l'État. Ouais. Là, c'était clair que je travaillais énormément.
Ouais.
Les Québécois voulaient vivre leur moment CAQ. Ils étaient écœurés des deux anciens partis.
Ils voulaient balayer surtout les libéraux.
C'est ce que la campagne a révélé. Parce que, donc, que les Québécois veuillent se débarrasser des libéraux, ça, c'était, disons, la fondation de l'élection. C'était clair, 70 % des Québécois voulaient se débarrasser des libéraux. Mais... qui était l'instrument de changement? Bien, ça aurait pu changer pendant la campagne, parce que quand on voulait se débarrasser de Harper en 2015, au début, les gens disaient, bon, on va voter pour le NPD puis Mulcair, puis pas pour Justin Trudeau puis le vieux parti libéral. Puis dans le milieu de la campagne, Mulcair a déçu, Trudeau a surpris positivement, puis les Québécois, comme les Ontariens, ont changé de cheval dans le milieu de la campagne pour se débarrasser d'Harper. Alors ça, c'était notre espoir, qu'à un moment, dans le milieu de la campagne, les gens se disent, ouais. On avait pensé que c'était la CAQ, mais finalement,
Je pensais être le Justin Trudeau du Québec.
En ce sens-là. Alors, la CAQ, finalement, leurs politiques ne sont pas si fortes que ça. Il n'est pas capable de répondre à des questions. Toutes choses qu'on pensait qui arriveraient parce qu'on savait, qu'on le connaissait. Et ce que je révèle dans le livre, parce que je donne nos sondages quotidiens internes, c'est que, personnellement, je suis parti 24 points derrière François Legault. Et après le premier débat, non seulement je l'ai rejoint, mais je l'ai dépassé, ce que Trudeau avait fait avec Mulcair. Mais les intentions de vote du Parti québécois n'ont pas bougé. Alors donc, c'était pas moi. Il y avait quelque chose d'autre. Puis comme tu dis, n'importe quel chef du PQ aurait eu le même problème. Il y avait un genre de sabot de Denver
sur l'intention de vote du PQ. Mais je pense que les gens ne voulaient pas prendre de chance. Ils ne voulaient pas prendre de chance, ils voulaient être sûrs.
À la fin.
À
la toute fin, il y a un sondage qui les mettait presque nez à nez à 48 heures du vote. Puis ça a donné un coup supplémentaire pour la CAQ. Mais au moment où le croisement des courbes se fait, c'est à ce moment-là qu'ils auraient pu changer de cheval.
Okay.
Ils n'ont pas changé de cheval parce qu'il y a quelque chose qui leur dit, peu importe l'estime qu'on a pour le PQ, son chef, leurs idées, etc., leur programme en santé, en environnement, on ne veut pas aller là, et c'est ça le but du livre, « Qui veut la peau du Parti québécois? » Il y a une réticence à voter PQ en soi parce que les gens, une partie des gens, ne veulent pas se retrouver avec la douleur qu'ils ont ressentie au moment de l'échec référendaire. Puis moi, je me suis dit, bon, c'est ça, là, on a isolé.
On ne veut pas s'associer à des losers.
On ne veut pas repère.
C'est des losers.
On ne veut pas rouvrir cette plaie-là.
Donc, ça veut dire, même s'il n'y avait pas un référendum dans un premier mandat, ça n'a pas été suffisant.
C'est ça. C'était pas suffisant.
Mais c'est quand même particulier comme peuple qu'on se soit dit non deux fois.
Oui.
Moi, là, honnêtement...
Non, mais respecte la démocratie, là, c'est ça qui est ça.
Oui, on respecte, mais
mais je l'analyse. L'un n'empêche pas l'autre, Richard.
A le droit d'avoir de la paix.
La démocratie s'est exprimée en 80, s'est exprimée une deuxième fois en 95. J'ai le droit de dire quelle tristesse que comme...
Mais quelle tristesse pour toi, parce que c'est souverainiste, mais de l'autre côté, c'est pas une tristesse pour
moi. Non, mais c'est parce que la dernière fois, le Canada est venu nous dire combien il nous aimait quand même. Là.
Et ça a changé.
Oui, puis tout d'un coup, maintenant...
Ça a changé, hein?
Maintenant, c'est du Québec bashing à pleine page dans les journaux anglais.
Est-ce que ça leur tente de venir au Québec puis de nous frencher?
Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, ils prendraient des autobus pour venir faire ça. Pas sûr du tout.
Je vais vous raconter une anecdote.
Pas de l'Alberta, en tout cas.
On a cru, ils sont venus nous dire qu'ils nous aimaient.
Non, mais moi, je croyais pas. C'était tellement... cette dernière minute, c'est la 25e heure.
Vraiment,
là.
Richard Martineau.
Il nous découvrait soudainement.
Tellement sceptique.
J'étais au coin de Peel et Sainte-Catherine. Où j'étais là, dans le...
Le
fait, c'était tellement
ridicule. Richard Martineau est contre l'amour. Bon, t'as le droit, mais...
Non, mais il faut
savoir recevoir l'amour.
Il faut que je chante que ça soit authentique. Si on m'aime pour mon portefeuille, ma renommée ou n'importe quoi, j'ai ça.
Moi, je t'aime pour aucun des deux. Non. Je t'aime pour qui tu es.
Ouais.
Je t'aime pour ton sens de l'humour.
Merci. Ben là, dans ce temps-là, tu pourrais aimer Jean-François. Il y a un excellent sens de l'humour.
Non, on va pas là. Non, on ne veut pas en discuter ce soir.
Quelle est ton anecdote?
Oui.
Alors, sur la question de... On a perdu le référendum. Est-ce que c'est juste les souverainistes qui l'ont perdu ou est-ce que c'est le Québec qui l'a perdu? Alors, à quelques, ben, immédiatement après, là, en 96-97, Lucien Bouchard avait, dont j'étais le conseiller, avait cette capacité d'être très rassembleur parce qu'il était proche des gens qui avaient fait le oui, donc les syndicats, etc., mm-hmm. tous ses amis, mais aussi, c'était un conservateur très proche des milieux d'affaires.
Oui.
Et là, il y a un soir, un groupe de gens d'affaires, dont plusieurs sont très, très identifiés au Parti libéral, qui se réunissent pour lui dire que s'ils s'engagent à ne pas tenir de référendum, ils vont appeler à voter pour lui. Ils vont lâcher les libéraux.
Ah, oh, ouais.
Parce qu'il aime lui, il aime quel ses politiques économiques, etc.
Wow. Okay.
Et puis comme là, un chantage affectif.
Wow.
En tout cas, ils disent ce qu'ils pensent, puis ensuite, c'est à Bouchard de décider.
Wow. Ouais.
Et puis là, il y en a un que je nommerai pas, mais qui était officiellement au Parti libéral.
Ouais.
Et qui dit, Monsieur Bouchard, de toute façon, avec vous autres, les péquistes, on perd tout le temps les référendums. Puis là, j'ai entendu, il on a dit, perd, on perd tout le temps. Mais toi, tu es dans le camp du non, mais tu considères que tu on as perd. Perdu, on perd tout le temps. Oh, et c'est, je trouvais ça très intéressant parce que ça voulait dire qu'une partie des gens qui ont voté non considèrent quand
ils
même
ont perdu.
C'est une défaite.
Je comprends. Oui, oui. Mais c'est vrai que c'est douloureux. C'était des défaites douloureuses.
Non, mais même les gens qui ont voté non, ils voulaient quand même que la menace souverainiste soit assez forte pour faire peur au Canada, c'est-à-dire le couteau sur la gorge, on voulait pas serrer le couteau. On voulait garder le couteau sur la gorge. Je pense que ça, il y a des gens qui veulent pas la séparation, mais qui veulent que la menace reste là.
Ouais. Mais là, on est en train de revivre un petit peu de façon soft.
Mais oui,
justement, là, on a un gouvernement. Écoutez, il n'y a rien que fait François Legault qui n'est pas fait par un autre premier ministre provincial régulièrement, défendre l'Alberta, défendre Terre-Neuve, on l'a vu souvent. Donc, il le fait, mais c'est considéré par le Canada anglais comme une agression. Et là, on mange ensemble la veille du dépôt du projet de loi sur la laïcité, va déclencher une réaction de rejet du Québec qu'on n'aura pas vu depuis la Charte et ensuite la loi 101. Et vous allez voir, là, je vous fais cette prédiction, enregistrez-la. Il y aura, dans les jours qui viennent, au Canada anglais, une pression pour que le gouvernement fédéral désavoue la loi. Il y a un vieux pouvoir de désaveu qui est tombé en désuétude dans la Constitution canadienne qui fait que le Canada peut dire d'une loi provinciale qu'elle ne s'applique pas. Elle n'a pas été utilisée depuis un siècle.
Ça serait le bout du bout.
Pierre Trudeau avait été appelé à l'utiliser contre la loi 101. Et là, vous allez voir, il va y avoir un débat. Est-ce que Justin Trudeau doit désavouer la loi québécoise sur la laïcité?
Il me semble qu'il y a d'autres problèmes à régler.
Mais est-ce que c'est possible que, justement, avec la loi sur la laïcité, c'est possible aussi qu'on va se faire dire un gros non d'Ottawa? Mais ça fait plusieurs gros noms d'Ottawa qu'on se fait dire, justement, dans le domaine de la santé puis dans plein d'autres domaines. Puis à un moment donné, les jeunes vont peut-être se rendre compte que à chaque fois que le Québec émet le début du commencement de l'amorce de quelque chose qui ressemble à se tenir debout, on se fait dire non par Ottawa. Fait que ce sera peut-être pas la question de la langue puis de l'immigration et tout ça, mais à un moment donné, peut-être les Québécois vont se rendre compte que la seule façon dont on peut se faire respecter, c'est de quitter ce pays-là.
Mais il y a peut-être aussi le fait que, là encore, les jeunes aujourd'hui voient le monde comme un grand village aussi.
Ben oui.
On leur a ouvert beaucoup de portes.
Mais où
et on leur a dit, allez-y dans le grand village. Donc, il y a ça aussi dans leur tête. C'est pour ça que je dis, il faut que les gens François Lisée de ce monde puissent leur dire aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire le Québec indépendant de façon claire, concrète, adaptée à aujourd'hui.
Moi, quand je vais dans les universités, je commence toujours avec le consentement et la permission.
Oui, de l'autre.
Parce que les jeunes détestent qu'on fasse des choses sans leur consentement ou qu'ils doivent demander la permission pour faire des choses.
Et c'est comme ça. Oui, c'est merci. Non, Jean-François.
Alors, donc, j'explique comment le Québec doit demander la permission pour faire un certain nombre de choses.
Ah, c'est bien.
Et qu'on n'a jamais vraiment consenti à notre présence dans le Canada. Puis là, ben, je retourne en
histoire. 82, ça.
Je raconte, puis ça, je veux dire, il n'y a personne qui sort de la salle, je raconte l'élection fédérale de 1867 qui a été l'élection référendaire sur notre entrée dans le Canada et que ça a été la plus grande fraude de l'histoire des élections, même selon les critères de l'époque. Puis je le raconte dans le détail, les gens n'en reviennent pas. Il n'y a jamais un moment où les Québécois ont consenti à être à l'intérieur du Canada. Ça, c'est la première chose. Puis à la Constitution de 82 qui s'applique, je dis, bon, ben, il y a des fédéralistes dans la salle. C'était quoi le résultat du référendum pour la Constitution en 82?
Mais là,
les plus jeunes ne peuvent pas penser qu'on a adopté une Constitution sans référendum. C'est antidémocratique. Puis là, ils disent, oui, c'était quoi? Quel est le résultat? Ouais. OK, est-ce que quelqu'un se souvient du résultat? Il n'y a pas eu de référendum. On n'a pas été consulté. On n'a pas été consentant. Mm-hmm. Bon, et là j'admets que j'ai perdu mon plus gros argument. À l'époque, je disais, il y a une majorité au Québec pour légaliser le pot, mais l'Alberta ne nous laisse pas faire.
Comment t'expliques ça, toi, Jean-François, que, bizarrement, les jeunes, je reviens là-dessus, les mots nation, nationalisme et tout ça, ça les transportait. Il y avait des événements sur la montagne, sur le Mont-Royal, puis on était tous... Les jeunes étaient... Tu disais jeunes, ils étaient évidemment indépendantistes. Mm-hmm. Et là, il y a eu un switch où ces mots-là sont devenus infréquentables, où c'est devenu des mots radioactifs. Et je l'ai déjà écrit, c'est pas Jean-François Lisée qui a perdu les élections, c'est l'époque qui a fait en sorte que le PQ ne colle plus avec la jeunesse parce que soudainement, des mots qui étaient des mots porteurs et des mots nobles sont devenus des mots infréquentables. Est-ce que tu as senti le vent tourner? Comment tu peux l'expliquer?
Ben, c'est sûr que d'abord, il y a une montée de l'individualisme et une baisse du goût pour tous les projets collectifs. Mm. Il y a une montée de la méfiance envers les élites, toutes les élites, élites politiques, religieuses, économiques. Il y a juste 15 ans, les élites économiques étaient très bien vues, maintenant elles ne sont plus. Il ne reste plus que les pompiers.
Le Québec Inc. Ouais.
Il ne reste plus que les pompiers et les infirmières qui sont très aimées. Alors donc, ça rend tout projet collectif plus difficile à vendre, à rassembler. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer. Hein, mais il faut dire que la jeunesse québécoise se mobilise pour des grandes causes qui ne sont pas individuelles. Le fait qu'il y a eu 150 000 personnes dans les rues pour l'environnement, puis on dit que c'est un des plus grands rassemblements qu'il y a eu en Occident, ben, moi, ça me met de bonne humeur. Mm-hmm. Tu sais, ils sont pas juste sur leurs jeux vidéo, ils sont sortis pour l'environnement. C'est une cause qui les dépasse.
Ouais.
Le printemps érable, on peut dire qu'il n'aurait pas dû boire de la sangria, bon, etc. Je comprends tout ça, Richard. Mais
très drôle! Ça a été des moments magnifiques.
Mais ça a été des moments d'organisation. On peut en débattre. Mm. La manifestation contre l'engagement en Irak, à Montréal, à moins 15. Ouais, à moins 15,
à la guerre,
c'est comme le facteur 20. On devrait tripler l'évaluation du nombre de gens. Parce qu'ici, à moins 15, par rapport à Boston ou à Los Angeles...
Alors, OK, mais si, mettons, les gens sortaient par milliers pour une cause d'extrême droite, tu dirais c'est fantastique, les gens sont sortis dans la rue, c'est inspirant.
Je serais moins enthousiaste.
Ben, c'est ça, mais là,
quand même, on dit, est-ce qu'il n'y a plus aucune cause commune qui peut mobiliser les jeunes? La réponse est non.
Il y en a.
Est-ce que la cause nationale peut redevenir une cause de mobilisation des jeunes? Moi, je suis assez vieux pour savoir que la constante dans l'histoire politique des peuples, c'est la surprise. Les pendules reviennent, les choses qui étaient disparues reviennent.
Le balancier.
Et le balancier revient. Ça nous rend très humbles, d'abord, sur notre capacité de faire changer le cours des choses. Mais ça nous dit, écoutez, c'est pas fini. Il n'y a rien de fini. Ça se peut qu'on soupe ensemble encore dans 5 ans, puis qu'il y ait une montée forte du nationalisme chez les jeunes. Et une chose que j'ai dite le soir de la défaite, j'ai dit, il faut quand même admettre que avec ces jeunes qui ont voté PQ, mais surtout Québec solidaire, ils ont entendu parler d'indépendance. Et même si l'indépendance n'est pas au cœur du programme de Québec solidaire, il le normalise auprès des jeunes. C'est pas, si tu es un jeune qui vote QS, l'indépendance, c'est pas ringard parce que QS se dit indépendant. Alors, c'est pas, je dis ça de façon lucide, je pense que QS, je l'explique dans mon livre, a fait en sorte qu'un scénario vraisemblable, si on avait fait le pacte que je proposais en 2017, c'est qu'aujourd'hui, on serait ensemble au pouvoir et on aurait le gouvernement le plus écologiste de l'Amérique du Nord.
OK, Jean-François, tu t'es fait fourrer par QS.
Quand tu es un grand parti, tu ne demandes pas un petit parti minoritaire qui vaut rien. Aidez-moi à survivre.
Pas à survivre.
Il y a quelque chose d'humiliant là-dedans. Il y a quelque chose d'humiliant là-dedans.
Ça se fait partout en Europe.
Un géant ne demande pas l'aide d'un nain.
Non.
Je suis désolé.
Non,
là.
Non.
C'est parce que.
Moi, j'avais compris le côté rassembleur de toutes les forces souverainistes.
Moi, je trouvais qu'il faut être desperate là, de demander. Au petit cul, j'ai besoin de toi.
Non, pour moi, c'est la division, la division à l'intérieur des forces souverainistes qui m'a fait dire que c'était une bonne idée.
Mais quand le grand demande au petit cul, peux-tu m'aider? Le petit cul, soudainement, est investi d'une force incroyable. Et là, se dit, tabarnak, c'est moi qui ai le gros bout du bâton.
Fait que oublie ça.
Négocions.
Moi, il m'a claqué à la porte d'en face, puis c'est moi qui vais être big.
Non, mais c'est pas parce que...
En disant tu lui donnes un pouvoir énorme qu'il n'avait
pas. C'est toujours un risque.
T'es pas obligé d'être couillon avec le pouvoir non plus, là.
C'est toujours un risque. Toute construction de coalition est un risque. Lorsque, avec Jacques Parizeau et Lucien Bouchard, on s'est mis à courtiser Mario Dumont pour être dans la coalition du Oui en 1995 et dirigeait le parti qui s'appelait l'Action démocratique du Québec, qui a maintenant été fusionné dans la CAQ, ça lui donnait un pouvoir extraordinaire. Et ça a été très compliqué, et on a réussi, mais il y a des bouts de la négociation où la résistance au sein de son exécutif était très forte.
Jean-François, excuse-moi, il faut que je te dise. Il faut que je t'arrête là-dessus. Tu ne peux pas comparer une coalition entre le PQ et feu l'ADQ, qui défendait des propositions tout à fait légitimes, intelligentes.
Tout le camp du oui, là.
Et QS, qui est un parti d'extrême gauche, qui propose la nationalisation des ressources, qui est un parti de licorne et d'hurlu-berlu. Tu ne peux pas faire cet affront-là à l'ADQ en comparant QS et l'ADQ.
Sophie, un parti qui ne veut pas gagner, qui veut avoir raison. L'ADQ voulait gagner. L'ADQ voulait faire partie du pouvoir. QS voulait avoir raison. C'est pas la même chose. Le prix à payer est élevé, là.
J'ai pas la même lecture parce que l'ADQ, à l'époque, c'était l'ADQ hard. L'ADQ voulait privatiser le système de santé, privatiser le système d'éducation, avoir le système de voucher, etc. Et ils allaient très loin, là. Il y avait des choses avec lesquelles on n'était absolument pas d'accord.
C'était comme les QS de droite.
Mais c'était pas ça, la question.
C'est la droite-droite, puis QS et la gauche.
La question, c'était, au-delà de nos divergences profondes et réelles, y a-t-il un bien commun plus important sur lequel on va travailler temporairement? Et ensuite, on reprendra nos batailles. La réponse était oui avec l'ADQ, et à mon avis, la réponse était oui avec QS.
Et ce que
j'explique bien dans le livre, c'est que nous avions des interlocuteurs
qui disaient oui.
Et non seulement ils disaient oui, mais ils
crédibles.
Se battaient. Nous, on suivait ça sur YouTube, là. Amir, puis Andrés, puis Gabriel, qui allait dans tous les comtés pour essayer de convaincre les délégués, les militants de dire oui au pacte. Ils ne faisaient pas semblant, là. Ils y croyaient.
Je le pense sincèrement qu'ils y croyaient.
Et donc, ils se sont fait avoir eux-mêmes.
Ils ont été mis en minorité
par leurs délégués. Okay? Nous savions que les électeurs de QS voulaient le pacte à 90 %. Nous voyons que la majorité des co-porte-parole en haut voulaient le pacte et se battaient pour. Ce qu'on savait pas, c'est entre les deux, les délégués, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ben, les délégués étaient majoritairement contre. Okay. Et à l'intérieur du Politburo, il y avait une majorité contre aussi. Bon, alors, on peut dire, regardez, Véronique et moi, nous aurions dû avoir une meilleure lecture de la réalité QS que celle qu'Amir et Andrés nous donnaient. Je suis d'accord, on aurait dû le savoir mieux qu'eux. Mais avec les conditions d'information que nous avions à l'époque, ça fait partie du calcul du risque pour le bien commun.
Je pense que ce qui m'a aussi dérangé, je peux comprendre que les délégués aient dit non. Mais j'aurais aimé que Québec solidaire ait l'honnêteté de dire toute la vraie affaire. Moi, je respecte les façons de faire que se donnent les organisations, mais je souhaite la rigueur aussi.
Mettons, tu promènes rue Sainte-Catherine, OK? Mmh. Tu croises des gens. Bon, tu croises plein de gens. Les gens, dans leur tête, ils se disent « Ah, regarde, elle est donc bien drôle, ses cheveux sont bizarres, il me semble qu'elle a des cheveux blancs, comme... » est un petit peu si, là. Même que les gens ne te connaissent pas, on a tous des opinions les uns sur les autres. On se promène dans la rue, on se fait une réflexion mentale. Les médias sociaux, c'est comme si tu te promenais sur rue Sainte-Catherine et que tu t'arrêtais chacune des personnes que tu croises en disant « Qu'est-ce que tu penses de moi? Me trouves-tu belle? »
Oui, mon Dieu, une femme avec des cheveux... Une femme avec des cheveux gris ne devrait pas être à la télé.
Bon. Non, mais c'est fou, alors que Richard, il a les cheveux blancs. Toi, Jean-François, t'as les cheveux blancs.
Ah oui, il est
plus blanc. Ben, t'as le droit. Ben oui.
Hey, wow.
Ben oui. Mais ça passe à la télé, ça un passe. Homme avec
mais
des
moi,
cheveux blancs.
C'est ça.
Mais toi, dans ton livre, Jean-François, c'est très intéressant parce que tu parles de l'importance de l'apparence
ouais.
pour un homme. Écoute, il raconte que...
Ben, quand il s'éteint les cheveux.
Ben, c'est qu'en fait, même, t'as mis de l'auto-bronzant.
Alors,
ça parce que les gens de ton équipe trouvaient que tu étais trop pâle.
Ben, pas les gens de mon équipe.
T'aurais dû être plus de la couleur de Régine Laurent. Elle était trop foncée. Ben toi, ouais. t'étais trop pâle.
C'est ça, il fallait trouver un juste milieu ben oui. entre toi et moi.
Ben oui.
Non, c'est drôle parce que même pendant la campagne, on a fait une soirée pour les femmes. Et une partie de mon discours, c'était sur les commentaires que les journalistes faisaient sur la couleur de mes cheveux, mes lunettes. Ma cravate, parce que des fois, la cravate était un peu défaite, était faite. Mais ils commentaient ça. Et j'ai dit, regardez, c'est un pas vers l'égalité. Parce qu'avant, c'était juste les femmes qui se faisaient commenter là-dessus. Puis maintenant, enfin, on est en train de vous rejoindre sur cette futilité. Mais il est vrai que, bon, moi, je suis blond d'origine et j'ai le teint assez pâle. Alors, en janvier, février, si je ne suis pas allé dans le sud, j'ai l'air tellement blanc que les gens pensent que je suis malade. Et quand tu essaies d'expliquer c'est quoi ta position sur la réforme de la santé, tu veux pas que les gens disent « Mais coudonc, es-tu malade? » Ça fait qu'il y a un moment où, avec les femmes du caucus du Parti québécois, on s'est mis à discuter de quelle est la meilleure lotion auto-bronzante. Mais elles avaient toutes un avis.
Ben oui, j'en doute pas.
Et on avait une pharmacienne. Et puis, j'ai dit « OK. »
Ben oui.
Diana Mar, c'est celle-là. J'ai dit, OK.
Et t'as pas dit à un moment donné, fuck off.
Non, j'ai dit,
tu peux pas dire fuck off.
C'est dans le livre, j'ai 50 leçons de politique appliquée, puis c'est là que je mets.
Je les trouve drôles. Ouais,
et c'est là que je mets celle de Jacques Parizeau. Pour la souveraineté, la maison est prête à tous les sacrifices.
C'est très bon.
Alors, donc, je dis, écoutez, si vous voulez que je mette l'autre, je vais en mettre. Si vous voulez que je mette des lunettes, je vais en mettre. Puis, je ne me ferai pas teindre les cheveux en noir, mais si on peut juste reculer de 5 ans dans la blancheur, ça, c'est le coiffeur de ma blonde qui a fait ça. J'ai dit, c'est correct. Moi, je veux juste que les gens se concentrent pas sur mon look. Si mon look nuit à mon message, changeons le look, changeons pas le message.
T'as la couenne dure, puis t'es capable d'en prendre, puis t'es fait fort, mais reste que quand même, Christian, à un moment donné, t'as dû... angoissé un peu, là, c'est lourd à porter.
Pendant
là,
que ça se passe, puis je le raconte dans le livre, tu sais, à un moment donné, Patrice Roy, que j'aime beaucoup, que je connais depuis très longtemps, fait les entrevues. Je connaissais son père. Et fait des entrevues en juin. Et puis, la première question qu'il me pose, c'est est-ce que ça vous traverse l'esprit que vous allez être le dernier chef du Parti québécois? D'abord, je me dis, c'est absurde. C'est une question qui est absurde. Même si ça allait très mal, même s'il y avait zéro député, il va y avoir un autre chef après moi. Je dis, je vois que c'est la première question d'une entrevue qui va être très vue, parce que ça va être sur tout le réseau de Radio-Canada. Ils font une grosse promotion. Je dis, waouh, tu sais, ça commence l'entrevue là très raide.
C'est vrai.
Puis là, je suis obligé de ramer pour remonter ça. Mais, tu sais, quand la question vient, tu sais, j'ai comme deux personnalités. J'ai une personnalité en arrière de la tête qui dit « c'est dégueulasse
».
Puis j'ai la personnalité qui dit « il faut que je passe à travers ça puis que je le fasse, tu sais, je pense aux téléspectateurs puis dire « ben non, tu sais, c'est pas ça qui va se passer », puis etc. » Et alors, ben là, j'ai vu toutes les autres entrevues qui ont, les trois autres chefs ont eu des questions très faciles comme « comment ça va, Madame Massé? » Puis, c'était la question pour Madame Massé, c'est « comment ça va? » Puis la question…
Ah oui, parce qu'elle vient de se casser la jambe.
Ben oui. Puis la question pour Philippe Couillard, dont les sondages de Philippe Couillard montraient qu'il conduisait son parti à une défaite historique, la question, ça a été quelque chose comme « comment vous préparez-vous pour la campagne? » Puis le meneur, François Legault, puis d'habitude, on est plus dur avec le meneur dans les médias.
Ouais.
C'était, ben, est-ce que vous êtes comme un sportif, là, puis vous jouez fessier en attendant la victoire? Ah. Tu sais, je dis, tu regardes les quatre questions, je dis, il y a un problème avec la mienne, tu sais. Je dis, je suis pas paranoïaque, là.
Jean-François, quand tu étais de l'autre bord, quand tu étais journaliste, je suis sûre qu'une chose que tu détestais, c'était les gens, que ce soit des politiciens, des hommes d'affaires ou peu importe, qui disaient, c'est la faute aux médias.
Ouais.
Je suis sûre que ça te puait au nez quand tu étais à l'actualité, quand tu étais toute ta carrière de journaliste, tu devais détester ça. Puis là, aujourd'hui, parce qu'il y a eu cette défaite-là du PQ, une partie de ton livre, pas tout ton livre, évidemment, mais une partie de ton livre, c'est la faute aux médias. Donc, c'est un petit peu, je trouve que c'est un petit peu facile. Quand tu étais journaliste, tu haïssais ça. Puis d'abord, là, maintenant que tu es de l'autre bord, tu dis, c'est la faute aux médias.
C'est un peu plus nuancé quand même.
Oui, tout est plus nuancé.
Tout lorsque ton livre est pas
lorsque
juste
j'étais, lorsque j'étais journaliste, j'étais très critique de certains comportements des médias. Et d'ailleurs, une fois, j'ai eu un scoop. Puis quand je l'ai eu, j'ai dit, jamais plus je ne ferai ça. Je vais vous le raconter. C'était, il y a un monsieur, un économiste qui s'appelait André Reynaud, qui était député du Parti libéral. Je sais pas s'il avait eu le temps d'être ministre, mais en tout cas, il y a un jour où il décide de se retirer. Puis, il y a deux journées très importantes en politique, la journée où tu entres, la journée où tu sors.
Mmh.
Alors, j'avais appris que ça se pouvait qu'il annonce son départ. Alors, je l'appelle pour dire, est-ce que c'est vrai que vous allez annoncer votre départ demain? Alors, il refuse de confirmer ou d'infirmer. Ce qui veut dire, pour un journaliste, ben, il refuse de t'infirmer, donc c'est vrai.
Mmh.
Et donc, je sors la nouvelle.
Mmh.
Et le soir, il y avait un caucus libéral, il était obligé de confirmer. Donc, il a confirmé au journaliste avant de l'annoncer au député. Oh, il l'avait dit au chef. Puis le lendemain, j'ai scrappé sa sortie. OK? Ouais. Puis là, le lendemain, je regardais ça, je dis, mais à quoi ça a servi que je lui scrappe sa sortie?
Ben,
puis
c'était le premier.
Ben, c'est ça. Je suis le premier journaliste à l'avoir dit.
Non, mais c'est ça la game.
Ben, c'est la game. J'ai dit, en quoi est-ce que ça sert le bien commun d'avoir scrappé? Ça allait arriver de toute façon demain. Mais là, j'ai décidé, comme journaliste, jamais plus je ne vais essayer de scraper la sortie de quelqu'un ou d'avoir un document la veille de sa présentation. Ça ne sert pas
de
bien public.
À partir de ce jour-là, tu étais moins bon journaliste.
Je sortais de la norme. Je vais aller sortir une information dont personne ne veut parler. Je vais aller dénicher un secret, comme les dossiers secrets de Bourassa en 92. J'en ai eu des scoops, des vrais scoops. Pas le scoop que tu l'as la veille que ça va être public. Bon. Sur la question du narratif de la mort du Parti québécois, les médias relaient ce narratif de façon très forte. Et puis là, une fois que j'ai établi ça et que je l'ai démontré, je disculpe les médias en disant « ça vient pas d'eux ». Ils relaient quelque chose qui est présent dans le corps social. Ça n'empêche pas que j'aimerais qu'ils arrêtent. Mais donc, c'est très, très nuancé. Et je ne dis pas que c'est la faute aux médias. Je dis les médias
font partie.
Non, tu ne
dis pas que c'est la faute aux médias. Mais par exemple, quand tu dis, je parlais de l'indépendance tous les jours, puis les commentateurs disaient, coudonc, ils ne parlent pas d'indépendance.
C'est
ça.
Mais ce n'est pas les mêmes.
Ouais.
Alors,
ouais.
les gens qui me suivaient dans la campagne, puis j'ai eu une équipe de journalistes pendant la campagne remarquable. Je l'ai trouvé très bon. Eux, ils ne disaient jamais que je ne parlais pas de souveraineté. Mais quand j'allais voir des intervieweurs radio, etc., ils disaient « vous ne parlez pas de souveraineté, donc ce n'est pas les mêmes ». Les journalistes qui me suivaient, ils savaient que je parlais de souveraineté tous les jours. Ils ne le rapportaient pas. Et j'explique pourquoi ils ne le rapportent pas. C'est parce que ce n'est pas une nouvelle.
C'est pas nouveau.
Alors, je ne suis pas dans le mode accusatoire face aux médias. Je suis dans le mode démonstration.
Oui, mais quand même, tu gardes quand même une petite crotte de la façon dont les journalistes parfois ont… Était biaisé ou un bien
Attends une minute, un avion qui atterrit à l'aéroport Trudeau, c'est pas une nouvelle. un avion qui crache, c'est une nouvelle. Voilà. Et un parti qui est un grand parti comme le Parti québécois, qui crache, c'est une sacrée nouvelle, ça.
Oui, mais excuse-moi, la défaite du Parti libéral, ça a été humiliant aussi. Puis la façon dont les journalistes ont traité l'écrasement d'avions du Parti libéral n'est pas du tout la même méthode.
Exemple, je donne cet exemple-là. Nous, on perd, trois députés. Mm-hmm. Il y a un journal qui parle d'hécatombe.
Oui.
Une hécatombe, ça veut dire que c'est quand presque tout le troupeau est en train de mourir.
Oui.
Ensuite, les libéraux perdent 15 députés et ministres. Personne ne parle d'hécatombe. Et Québec solidaire perd la moitié de son caucus. Personne ne parle d'hécatombe. Il y a un problème!
Ça, c'est le gâteau, là.
Oui, un gâteau aux carottes avec des morceaux d'ananas préparés par un restaurant italien qui s'appelle Villa Armando. Mais c'est très drôle parce que c'est une Québécoise qui est mariée avec un Italien. Et elle a décidé de faire le dessert selon sa vieille recette familiale québécoise. Donc, tu as un restaurant italien avec un gâteau aux carottes, une recette des ancêtres québécois. C'est un petit peu le symbole aussi de...
Super bon.
Le métissage québécois.
Est-ce que c'est difficile... Quand on est une femme d'opinion, de trouver un chum?
Oui, mais là-dessus, ma mère, j'avais une mère qui était très, très, très terre-à-terre. Elle m'a dit, ma petite fille, t'as choisi de divorcer, t'as élevé tes enfants seuls, rendu là, puis il y a des années, là. Elle m'a dit, oublie ça. Il y a personne qui veut avoir des discussions avec toi 24 heures par jour, fait que tu vas rester tout seul.
Oh! Et?
Elle avait raison, ma vieille mère. Oh. Elle disait pas toujours des niaiseries. Non, mais c'était. Puis en plus, c'était drôle qu'elle dise ça parce que, je veux dire, si j'ai appris d'elle aussi, là.
Est-ce que vous croyez que les hommes ont peur des femmes d'opinion?
Ben, moi, mes amis gars m'ont dit ça, là. Ils m'ont dit, garde, quand on te regarde, si on te connaît pas, Régine, on t'approchera pas. Parce que ça a l'air que ce que je dégage, c'est quelque chose d'assez sévère, mais j'y peux rien, ma face est faite de même.
Moi, je trouve ça sexy, des femmes d'opinion. Ça sexy, les femmes d'opinion.
Moi, j'ai toujours même quand j'étais adolescent, ma chanson, c'était « Hard-headed woman ». J'ai toujours cherché des femmes fortes, toujours.
Alors ici, on va insérer au montage une section de « Hard-headed ». Non, mais peut-être tu peux nous la chanter.
Le Cat Stevens.
« Looking for a hard-headed woman, headed woman ». Ça va être tout.
I'm looking for a hard-headed woman, headed woman. One who will make me do my
best. Mais là, excusez-moi, là, je veux pas aller dans votre vie privée, mais actuellement, vous n'êtes pas marié, vous n'êtes personne?
Ah non, le marié, non. Moi, j'ai fait ça une fois, j'ai compris, fait que non.
Mais vous avez quelqu'un dans votre vie?
Pas du tout.
Bon, OK, là, je lance un appel.
Non.
Un appel.
1 800
trouver un chum à
Régine. Une nouvelle
femme.
Mon ami Jean-François, sauve-moi de l'humiliation.
Mais c'est pas brillant.
On va lancer un concours sur Cube Radio.
Sauve-moi de l'humiliation.
Et on va avoir un jury, puis on va rencontrer des candidats.
Régine Académie.
Je suis bien orgueilleuse, je meurs, là.
Mais on vous souhaite, en tout cas, qu'un jour, un gars voit la lumière et découvre la femme extraordinaire que vous êtes.
On sait jamais.
Est-ce que ta blonde, elle est un peu soulagée que tu sois plus en politique? Parce que c'est très demandant. En même temps, peut-être qu'elle aurait aimé que son chum, je ne sais pas si c'est son chum soit premier ministre du Québec, c'est sûr, mais est-ce qu'elle est... C'est exigeant, maudit.
Elle a récupéré son chum, là.
Oui, mais non, je pense qu'elle n'est pas soulagée. Elle est... D'abord, elle a adoré la campagne. Elle a fait la campagne avec nous.
Elle était sur l'autobus.
Ouais. Elle faisait des smoothies tous les matins. Mais elle a fait la campagne. C'est une présence importante.
Adorée.
Ah oui, elle adorait ça. Mais l'intensité d'une campagne, je veux dire. un jour, hein, il faudra que vous alliez en politique pour vivre ça. Là. Ça ne se raconte pas ici.
Moi, je ne mourrais pas sans avoir fait au moins un passage en politique.
Sophie ah, veut oui? faire la politique.
C'est vrai.
Ouais. Ah. Moi, j'avais demandé à elle sur les autobus là, une journée, là, puis ouais. j'ai vraiment adoré ça. Sophie, c'est le Parti libéral qui ne voulait pas me voir.
Moi, il n'y a aucun parti assez niaiseux pour me prendre. Mais Sophie aurait peut-être... Mais j'ai dit à Sophie, tu fais de la politique, on se laisse.
Mais, ah!
Non, je les menace.
Ouais. Mais alors,
non, c'est comme Québec solidaire. Je menace 10 ans d'avance.
Le chantage. Allez, Jean-François. Non, donc, ta blonde.
En fait, Sylvie, donc, là, j'habite chez elle. Maintenant, c'est chez nous.
Ouais.
Puis l'idée que j'étais parti 3 jours par semaine à Québec quand j'étais député.
Elle aimait ça.
Là, on s'ajuste au fait que je suis là presque tous les jours. Donc, on y arrive, là. Mais non, mais elle voyait très bien. Non, elle était dans cette aventure-là. Complètement engagé.
Je voudrais rendre hommage à Régine Laurent et à Jean-François Lisée parce que des têtes fortes, des gens d'opinion, des gens de conviction, des gens de passion au Québec, il n'y en a pas assez, ça en prendrait plus. Alors merci d'être
venu. Merci pour l'invitation.
Merci de nous avoir invités et d'être des gens d'opinion et de conviction. Merci.
Oui, mais nous, on ne change pas la société québécoise.
Au plaisir. Que vous, oui. Et là, vous allez m'écouter, prenez soin de vous.
Ah!
C'est promis.
D'accord.
Conseil d'infirmière.
Et là, messieurs, Régine est disponible, alors on attend vos CV.
1-800.
Une femme brillante.
Régine Académie.
Une opinion sexy, extraordinaire.
On veut avoir les CV.
On attend vos CV.
On veut avoir les photos. On veut avoir des références. On veut avoir une lettre de motivation.
OK. Donc, vous êtes le trio,
on est le jury.
Le jury. D'accord.
Oui. Ben oui. Occupation double pour Régine Laurent.
Vous avez écouté le balado « Devine qui vient souper » avec Richard Martineau et Sophie Durocher. Prise de son, Bastien Gagnon La France. À la recherche, Hugo Veilleux. Au montage, Philippe Seguin. Co-réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Chef réalisateur, Bastien Gagnon La France. Une idée originale de Mathieu Turbide. Une production Cube Radio.